bonjour. En partenariat avec les rendez-vous citoyens du Sénat, où se tiendront demain plusieurs débats sur l'histoire et l'avenir de la démocratie, aujourd'hui, avec Claude Mossé, nous rappellerons comment et pourquoi elle est née en Grèce il y a 2500 ans. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. Thucydide, 5e siècle avant Jésus-Christ. Ans d'histoire. Stigmatiser toutes les formes de dictature et proclamer son attachement à la démocratie dans les pays où elle existe n'a rien de très original. Et l'on imagine mal aujourd'hui un homme politique mettre à son programme le rétablissement d'un régime totalitaire ou l'abolition de ce qui fait d'un pays une démocratie, le droit de vote. Il est devenu tellement sacré d'ailleurs qu'il y a quelques années, dans de soi-disant démocraties populaires, on n'avait pas osé y toucher. On s'était simplement contenté d'y interdire l'opposition jusqu'à ce qu'elle parvienne un jour à reconquérir le droit pour les citoyens de choisir leurs représentants et de participer directement ou non à la politique de leur pays. Mais si aujourd'hui la démocratie est un acquis pour beaucoup de pays, elle ne l'était pas encore il y a 2500 ans, dans la cité qui a inventé le mot et la chose, en chassant son dernier tyran Hippias et en donnant enfin au démos, le peuple, le droit de décider enfin lui-même de son destin.
C'est à toi, ô Pallas Athénée, ô déesse, que je consacre ces lauriers olympiques. Et comme tu m'as protégé, protège, ô déesse, cette cité qui porte ton nom.
Ce jour est un jour de fête pour Athènes. Aucun de nous ne peut oublier que c'est à cette date que le peuple athénien, en décrétant il y a une année l'exil du tyran Hippias, a repoussé le péril d'un régime dictatorial. C'est à toi, malheureux Philippides, et à tes compagnons de la garde sacrée, que les Athéniens confient le soin de défendre leur liberté.
La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois.
Claude Mossé, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un des plus grands spécialistes françaises de l'histoire de l'Antiquité grecque, sur laquelle vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier, Les Grecs inventent la politique, qui vient de sortir chez Complexe, et qui rappelle qu'ils ont aussi inventé la démocratie. D'ailleurs, les deux mots sont aujourd'hui tellement courants qu'on oublie qu'ils sont d'origine grecque.
Effectivement, les deux mots sont d'origine grecque, puisque ils combinent à la fois le mot démos, qui veut dire le peuple, et le mot kratos, qui veut dire souverain. C'est donc souveraineté, en quelque sorte. C'est donc le régime dans lequel la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décision, appartient au démos, c'est-à-dire au peuple.
Comme le mot politique. Alors, le mot vient de police.
De même que le mot politique, d'ailleurs tout notre vocabulaire politique, à vrai dire, vient des Grecs, mais effectivement, le monde grec était un monde de cité, le mot polis qui désigne la cité, et politique, c'est effectivement, en particulier, le mode de gouvernement de la cité.
Alors avant de parler de la démocratie, qui a aussi non seulement une étymologie, mais une date de naissance très précise, qui est 508 avant notre ère, je voudrais que vous nous rappeliez ce qu'était la Grèce et Athènes avant la démocratie, parce que Athènes est tellement associée à la démocratie qu'on oublie souvent qu'elle n'a pas toujours existé dans cette ville, dans cette cité.
À vrai dire, on connaît assez mal les débuts de l'histoire d'Athènes. Athènes a été, à l'époque dite mycénienne, c'est-à-dire entre le 15e et le 12e siècle, le centre d'un royaume, du même type que les royaumes de Mycène, de Pylos, etc., dont Agamemnon, par exemple, pouvait être l'exemple tel qu'il a été ensuite repris dans les poèmes homériques. Bon, puis ensuite, ces royaumes se sont effondrés. À Athènes, il semble qu'ils aient subsisté assez longtemps. Il y a eu probablement un roi, enfin, du moins la tradition légendaire, mythique, donnait des rois à Athènes, et Thésée est un de ces rois auquel d'ailleurs on attribuait ensuite presque la création de la démocratie, parce qu'il aurait lui-même donné une partie du pouvoir au peuple. En réalité, ce qu'on peut entrevoir, et c'est le sujet de beaucoup de débats parmi les spécialistes, ce qu'on peut entrevoir, c'est plutôt l'existence de grandes familles aristocratiques qui disposaient d'une clientèle paysanne importante, qui contrôlaient les sanctuaires locaux, et qui par conséquent exerçaient leur autorité.
Là, c'est plus une monarchie, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une oligarchie, cette aristocratie qu'on appelait les eupatrides, hein, c'est ça.
C'est ça, exactement ce qui veut dire, enfin, les eupatrides. C'était une des façons de les désigner, ça veut dire les bien-nés, tout simplement.
Alors, avant qu'on en vienne encore à la démocratie, il y a quand même eu une étape importante qui a été franchie, je crois que c'était en 594 avant Jésus-Christ, qui a été franchie par un homme qui s'appelait Solon, et qui, en fait, permet, au fond, donne aux citoyens l'égalité devant la loi, c'est ça?
Oui, exactement. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que, on devine qu'il y a eu, au début du VIe siècle, une crise assez grave, dans la mesure où nombre, justement, de ces petits paysans qui étaient dépendants de ces grands propriétaires aristocratiques ne pouvaient plus acquitter leurs redevances, étaient menacés d'être réduits en servitude. Il y avait donc une atmosphère de conflit très grave, et Solon est intervenu pour résoudre le conflit en interdisant en particulier la servitude pour dette qui menaçait justement ces petits paysans, et en créant des lois, en écrivant des lois, et c'est très important parce que justement ce sont des lois écrites, hein, jusque-là il n'y avait pas de lois écrites, qui étaient communes à tous les membres de la communauté civique.
Alors, ils étaient égaux devant la loi, mais en fait ils n'y participaient pas, ils ne participaient pas à
son élaboration. Si, ils participaient à la loi, mais pas au pouvoir politique, évidemment.
Pas au pouvoir politique. Alors, il y a eu aussi une autre expérience, alors là, qui était tout à fait différente, c'était juste avant l'avènement de la démocratie, Claude Mossé, ce sont les tyrans. Il y en a eu d'ailleurs un peu partout, il y a eu Pisistrate et ses fils à Athènes, ce qu'on appelait les Pisistratides, il y a eu Polycrate à Samos, il y a eu Thrasybule à Milet, d'ailleurs, qui disait, Thrasybule, qu'il fallait gouverner la cité en écrasant toute opposition, comme dans un champ de blé, disait-il, il fallait couper tous les épis qui dépassent.
Oui, en fait, c'était surtout les puissants dont il fallait se débarrasser.
Oui.
Oui, dans le cas d'Athènes, c'est tout simplement que Solon avait en effet créé l'égalité juridique des Athéniens, puisqu'ils étaient tous égaux devant la loi, mais c'était opposé, il le dit dans des poèmes de lui qui nous ont été transmis, à un partage égalitaire des terres qui était revendiqué par certains. Et c'est très important parce qu'on voit déjà apparaître cette notion d'égalité, justement. Ils s'étaient opposés. Et d'où une agitation qui se poursuit et dont va profiter Pisistrate, un membre de cette aristocratie qui va choisir pour en fait s'opposer et s'emparer du pouvoir contre les autres grandes familles aristocratiques de la cité, de s'appuyer sur le petit peuple. Et il va donc s'emparer du pouvoir et pratiquer d'ailleurs une politique vraisemblablement dans une certaine mesure de bienfaiteur à l'encontre de
ce petit peuple. Amusant parce que tyran, c'est un mot très péjoratif aujourd'hui. Si on traite quelqu'un de tyran, évidemment, c'est pas flatteur pour lui. Et c'était les tyrans populaires en fait, en tout cas les premiers.
C'était péjoratif tout de même, oui. Même dans le monde grec. Mais enfin, dans le cas de Pisistrate, c'est un peu différent parce que, justement, parce qu'il s'est appuyé sur une partie du démos, donc sur le petit peuple, en particulier dans les campagnes, mais qu'il a en même temps d'ailleurs favorisé le développement économique d'Athènes et le développement maritime, même déjà d'Athènes au VIe siècle. C'est le grand début.
VIe siècle, toujours, je précise, avant notre ère. Oui,
oui, c'est toujours le VIe siècle avant notre ère, bien sûr. Oui. C'est le grand début, en particulier, de la céramique athénienne qui allait se diffuser dans tout le monde méditerranéen. Donc, on garde de lui une sorte d'image d'un tyran bienfaiteur, en quelque sorte. Mais il n'empêche que quand il meurt, ses fils qui lui succèdent, eux, apparemment, sont beaucoup plus autoritaires. Et en tout cas, c'est contre ses fils que va se créer, effectivement, la cité démocratique. Pas immédiatement, en ce sens que les fils de Pisistrate sont renversés par une coalition d'aristocrates et aidés par les Spartiates, mais qu'ensuite, lorsqu'un conflit éclate entre plusieurs familles aristocratiques, une de ces familles va s'appuyer, enfin les Alcméonides vont s'appuyer, et Clisthène va s'appuyer sur le démos, sur le peuple, et va donc instaurer...
Oui, alors vous citez justement, après la chute du tyran Hippias, le fait que c'est un aristocrate, Clisthène, qui donc fait entrer dans l'histoire, et l'événement est considérable, un nouvel acteur, c'est le démos, vous le disiez, le peuple, qui pourra désormais intervenir dans la politique de la cité, ce qu'il ne faisait pas jusque là. Alors aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est assez banal, hein, la démocratie, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. On a même parlé de miracle, parce que quand aujourd'hui, dans une dictature, on se bat pour la démocratie, c'est en faisant référence à un modèle antérieur ou extérieur, mais à l'époque de Clisthène, à l'époque d'Athènes, il n'y avait pas encore d'exemple extérieur. La démocratie n'existait nulle part. Elle est créée de toutes pièces à partir d'aucun exemple extérieur. Comment expliquer, avant qu'on évoque les modalités de cette démocratie, ce basculement, cette révolution extraordinaire qui a été son avènement en 508 avant notre ère.
Le problème est un peu compliqué, un peu difficile à résoudre et nous n'avons pas les éléments pour le résoudre de façon définitive. Il y a deux interprétations possibles. D'un côté, que ce Clisthène, précisément, qui était certainement nourri de la philosophie de l'époque, ait rêvé précisément d'un système pour s'imposer, mais sans établir cette tyrannie, et imaginer ce système nouveau. L'importance d'ailleurs de sa réforme a consisté en particulier à supprimer les tribus. Les Athéniens étaient divisés en 4 tribus, qui était fondé sur, de façon plus ou moins mythique et réelle, sur une certaine parenté. Et il a substitué à ces tribus fondées sur la parenté des tribus territoriales, autrement dit un découpage territorial, qui faisait que d'une part, ça affaiblissait évidemment l'autorité des vieilles familles aristocratiques, et que ça mettait tous les citoyens sur le même plan, puisque tous les citoyens étaient également représentés de la même façon, puisqu'ils étaient partagés, répartis entre les 10 tribus, qui étaient toutes semblables, en quelque sorte, qui avaient toutes la même valeur.
À partir de ce moment-là, se mettent en place des institutions, les premières institutions démocratiques de l'histoire. Je voudrais qu'avec vous, on les passe en revue. Claude Mossé, d'abord la plus importante, celle qui est à la base de tout, l'équivalent d'une assemblée qu'on appelait, je crois, l'Ecclésia.
Oui, alors l'Ecclésia, c'était en effet l'assemblée qui réunissait tous les citoyens. Il est vraisemblable que, à l'époque de Clisthène, peut-être ne s'était-elle réunie que très rarement, ou ne se réunissait-elle que très rarement et très exceptionnellement. Ce qui va évidemment fonder son autorité, c'est à partir du moment, et vraisemblablement à partir de l'époque de Périclès, où les réunions de cette assemblée sont devenues régulières, et donc un calendrier a été établi, et d'après la description qu'en donne un disciple d'Aristote, sinon Aristote lui-même à la fin du IVe siècle, chacune de ces assemblées, il y en avait 40 régulières, plus des extraordinaires s'il le fallait pour des raisons particulières, chacune de ces assemblées avait son ordre du jour, et donc c'était véritablement un système qui était organisé.
Alors nous verrons plus tard ces pouvoirs, c'était l'assemblée de tous les citoyens qui se réunissaient, non pas comme on le dit souvent et comme on le croit souvent sur l'Agora, mais sur une colline qui s'appelait la Pnyx.
C'est-à-dire qu'au départ, probablement, c'était sur l'Agora, même très certainement, c'était parce que c'était le lieu où se rassemblaient les citoyens. Il ne faut pas se tromper, tous les citoyens pouvaient être présents à l'Assemblée, il est bien certain que tous ne venaient pas. L'Attique n'était pas très grande, mais quand même, les paysans qui habitaient suffisamment loin, enfin trop loin d'Athènes pour se rendre aux Assemblées, ne s'y rendaient pas, ou pas régulièrement.
C'est pour ça, d'ailleurs, il y a une chose qui est très importante, c'est bien gentil de pouvoir voter, de pouvoir participer à la vie politique, mais quand on est paysan, etc., c'est gênant. Et c'est pour ça que, à côté de ce système démocratique, un peu plus tard, je pense que c'est Périclès, je crois, ils ont eu une indemnité, l'équivalent un peu d'une indemnité parlementaire.
L'indemnité, elle a été instituée seulement qu'au IVe siècle, et ça c'était pas particulièrement pour favoriser l'avenue des paysans. Et il faut bien dire que l'un des arguments des adversaires de la démocratie, c'était précisément que ceux qui participaient aux assemblées, c'était essentiellement les gens de la ville et des environs de la ville et du port, c'est-à-dire les éléments les plus actifs au point de vue politique. Alors, ces assemblées, elles se tenaient donc sur la colline de la Pnyx, et on a pu fouiller cette colline de la Pnyx, et on a pu constater qu'environ 9000 personnes pouvaient tenir sur les gradins de cette colline de la Pnyx. Or, à une certaine époque, on pense qu'il y avait 30 000 citoyens athéniens à peu près.
Autre assemblée, plus restreinte, celle-là, rapidement, il y a la boulée qui votait, je crois, ou plutôt cette assemblée, l'Ecclésia, votait des lois préparées par ce qu'on appelait la boulée, qui était un conseil de 500 citoyens qui était tiré au sort, ce qui d'ailleurs est assez démocratique. Ça veut dire que tout le monde pouvait y participer à la boulée.
La boulée était tirée au sort, justement, à chacune des 10 tribus que j'évoquais tout à l'heure, désignait chaque année 50 bouleutes, 50 membres de la boulée, qui étaient effectivement tirés au sort. Et donc, les membres de la boulée, il fallait être âgés de plus de 30 ans, mais tout citoyen pouvait être tiré au sort et donc pouvait participer à la boulée. On ne pouvait pas être bouleute plus de 2 fois dans sa vie, ce qui implique, si on réfléchit un petit peu, que beaucoup de citoyens devaient avoir pu être bouleutes. Alors la boulée, effectivement, préparait les décrets qui étaient soumis ensuite au vote des citoyens à l'Assemblée.
À quoi pourrait-on l'assimiler aujourd'hui, la boulée, dans nos institutions démocratique.
Bah, elle représente, elle serait plus semblable, si vous voulez, à la fois à une assemblée nationale,
oui.
parce qu'elle était représentative,
oui.
Bien qu'ils aient été tirés au sort et non pas élus, et aussi, si vous voulez, à une sorte de conseil d'État qui
oui.
préparait un peu les
alors,
lois.
Alors ça, c'est le législatif. Alors il y a un pouvoir exécutif à Athènes aussi. Il y a les stratèges et aussi ce qu'on appelait les archontes.
Les archontes en conseil. À part ailleurs, voilà qui me surprend.
Ils doivent avoir un grave motif pour le faire.
Ce n'est pas la première fois que notre territoire subit une agression de nos ennemis. Et ce n'est pas non plus la première fois que notre cité, nos lois et nous-mêmes courons le risque d'être dangereusement menacés.
Oui, mais la menace qui pèse sur nos têtes s'amplifie de jour en jour. Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs.
Que signifient ces paroles? Que nous devons nous rendre et accueillir les Perses comme des amis? Remettront des armes aux vieillards, aux adolescents. Ne combattront-ils pas tous pour un idéal commun? Et s'il est impossible de vivre libre, mieux vaut mourir en combattant.
Alors les archontes, Claude Bosset, contrairement à ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait de Péplum, n'étaient pas du tout chargés de la défense de la cité, des problèmes extérieurs. C'était plutôt des magistrats.
C'est-à-dire qu'au départ, les archontes, c'était les magistrats suprêmes de la cité. Probablement héritiers de l'ancien pouvoir royal qui a pu exister à une période assez ancienne. Mais avec le développement de l'armée et surtout avec les guerres médiques contre les Perses, les stratèges ont été appelés à jouer un rôle de plus en plus important. Les stratèges étaient au nombre de 10, nous retrouvons toujours, n'est pas le même système décimal, ils étaient élus un par tribu, alors que les archontes, eux, étaient, surtout à partir de la deuxième moitié du Vème siècle, étaient tirés au sort. Et tirés au sort, c'était déjà un mode de recrutement plus démocratique, dans la mesure où pour l'élection, on pouvait jouer le prestige, les qualités, alors que le tirage au sort, évidemment, était réservé au hasard.
Mmh.
Bon, il faut pas se faire d'illusions, c'était super.
Les stratèges pouvaient être élus et réélus, d'ailleurs c'est le cas de Périclès, je crois qu'il a été 14 fois
Il pouvait être élu indéfiniment, et effectivement, Périclès a joué en tant que stratège, réélu chaque année, mais partageant l'autorité avec 9 autres collègues, qu'il ne faut jamais oublier, pas, qu'il a pu diriger la politique athénienne.
En fait, tout procède de la première assemblée dont nous avons parlé, hein, qui était justement l'ensemble du peuple, c'est l'Ecclésia. Elle avait le pouvoir sur tout, hein, c'était la guerre, la paix, le budget, et même la justice pour les cas les plus importants. Il y a quelque chose qui était aussi très important dans les institutions grecques, démocratiques, c'est la pratique de ce qu'on appelait l'ostracisme. C'est-à-dire qu'on excluait quelqu'un de la cité, ça c'était...
Attendez, oui, alors je vous interromps, excusez-moi, pour vous dire que effectivement l'ostracisme a existé au Vème siècle, car il prend fin dès les dernières décennies, en 417, après il n'y a plus de procédure d'ostracisme. Alors exceptionnellement, l'Assemblée se réunissait sur l'Agora, et chaque citoyen qui était présent devait inscrire sur un tesson de poterie le nom de quelqu'un qui lui paraissait dangereux.
Un tesson de poterie qu'on appelait l'ostraca, je crois. C'est pour ça, d'où le nom d'ostracisme.
C'est ça, exactement. Et il inscrivait le nom de quelqu'un qui lui semblait dangereux pour la démocratie. On pense que c'est Clisthène, la tradition voulait que Clisthène ait précisément instauré au lendemain de la chute de la tyrannie ce procédé de façon à éviter tout retour d'un tyran au pouvoir.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que en fait cette assemblée qui peut ostraciser les gens, qui décide de la guerre, de la paix, etc., elle a donc un pouvoir judiciaire. Oui, je crois qu'il y a aussi une autre assemblée qui est importante, qui est justement un tribunal populaire.
Elle a un pouvoir judiciaire, oui, assez exceptionnel, et dans des cas très graves, en particulier d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais le pouvoir judiciaire, en réalité, est entre les mains. Enfin, le pouvoir judiciaire, il n'y a pas de séparation des pouvoirs,
non,
comme
c'est ça,
dans la démocratie moderne. C'est essentiellement le tribunal populaire de l'Élier, c'est-à-dire 6000 Athéniens tirés au sort chaque année, toujours encore le tirage au sort, et qui forment ensuite par un second tirage au sort, forment des tribunaux devant lesquels sont portées toutes les accusations, que ce soit privées ou publiques. C'est-à-dire que aussi bien une accusation contre un décret qui semble illégal peut être portée devant le tribunal de l'Élier qu'une accusation privée contre, je sais pas, un détournement de fonds ou détournement d'héritage ou des choses de ce genre. Et nous avons la chance d'avoir d'ailleurs, surtout pour le IVe siècle, de très nombreux discours prononcés par les orateurs devant ces tribunaux.
Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que, en fait, cette démocratie va beaucoup plus loin que la nôtre aujourd'hui. Le citoyen a quasiment tous les pouvoirs judiciaires, politiques, puisqu'il contrôle la nomination, l'élection des archontes, des stratèges, etc. Il décide de la guerre. Alors, en revanche, il a à la fois plus de pouvoir et il en a moins. Parce que la grande critique que l'on a faite de ce régime démocratique, Claude Mossé, c'est que il donne le pouvoir aux citoyens. Or, les citoyens, dans l'Athènes de l'époque, c'était une petite partie de la population, puisque n'avaient pas accès à ce droit de vote, et donc aux décisions de la cité, ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves, qui étaient environ 100 000 contre 35 000 citoyens, ni les métèques, c'est-à-dire les étrangers résidant à Athènes.
Alors, je vous signalerai simplement que les femmes, les enfants,
on a attendu longtemps chez nous aussi avant qu'ils votent, et encore les enfants de bas âge.
Aujourd'hui, dans notre démocratie, ouais. n'ont pas le droit de vote. Par conséquent, il ne faut tout de même pas exagérer. Ce n'est pas le problème. Non, le problème qui se pose, c'est effectivement, ou du moins qu'on a pu poser, c'est celui des esclaves, qui formaient une partie importante, effectivement, de la population de l'Attique. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas surtout représenter le démos athénien, c'est-à-dire le peuple athénien, comme un peuple de propriétaires d'esclaves qui auraient vécu du travail de ces esclaves. Car les critiques de Platon, de Xénophon, des adversaires de la démocratie athénienne montrent bien que ce démos était composé de paysans, d'artisans, de boutiquiers, de petites gens, et pas seulement, et que les pauvres d'ailleurs formaient la majorité de ce démos, et pas seulement de propriétaires d'esclaves, même s'ils avaient un esclave, ce qui n'est pas exclu du tout, mais cela dit, ils travaillaient eux-mêmes, c'était eux-mêmes aussi des gens qui avaient des activités.
Même chose pour ce qui concerne d'ailleurs ce que les Athéniens appelaient les métèques, donc c'était pas du tout péjoratif d'ailleurs dans leur bouche.
Absolument pas.
Et qui avaient des... qui votaient pas les métèques.
Les mots métèques voulaient dire ceux qui vivent à côté. C'était des étrangers domiciliés et qui avaient le droit de vivre à Athènes, d'exercer leur métier ou de suivre des leçons des philosophes, mais qui ne participaient pas à la vie politique, du moins pas directement. Ils pouvaient le faire de façon indirecte avec les relations amicales qu'ils pouvaient avoir avec tel ou tel, mais pas directement.
Alors ce système, cette démocratie nouvelle, elle a duré quand même 2 siècles jusqu'à l'arrivée d'un envahisseur qui allait y mettre un terme en 338 avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine.
Les Macédoniens sont à nouveau en marche, conduits par Philippe, le loup, et Alexandre, son louveteau. Tout ce que nous tenons pour sacré est de nouveau en péril. Mais c'est ici, à Chéronée, que le sort de la Grèce va se décider une fois pour toutes. Vivra-t-elle libre ou sous la tyrannie? Et pour mener cette lutte sacrée, même les tombeaux de nos pères accepteront de rendre leur mort.
Macédoniens!
Démosthène déclare ouvertement que la bataille de Chéronée décidera une fois pour toutes qui doit être le maître de la Grèce. Macédoniens, à vous de lui répondre.
Et c'est la conquête de la Grèce par Philippe et son fils Alexandre. On dit souvent que c'est avec eux qu'elle se termine en Grèce. En réalité, c'est plus tard, avec la conquête romaine, et puis alors ensuite 2000 ans où elle disparaît pratiquement, sauf dans quelques cités, jusqu'à la Révolution française. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre nos démocraties, depuis la Révolution française ou américaine, et celle de l'Antiquité grecque, Claude Mosset?
Eh bien, c'est-à-dire que nos démocraties sont des démocraties représentatives. Et c'est bien ce que soulignaient, par exemple, des gens comme Volney, en ironisant sur les références que faisaient les hommes de la Révolution française, par exemple à Sparte ou à Athènes, en disant on ne peut pas comparer des petites cités, des petits cantons de la Grèce avec un État moderne. Donc nos États modernes sont des démocraties représentatives. Et le pouvoir du citoyen consiste essentiellement à voter. Hormis, évidemment, des cas particuliers, par exemple, le recours à un référendum.
Là, c'est la démocratie directe.
C'est la démocratie directe.
Autrement dit, au fond, les raisons peut-être de sa disparition dans les grands États qui ont succédé l'histoire d'Athènes, c'est qu'on ne pouvait plus réunir des peuples aussi importants, aussi considérables, pour des raisons purement techniques sur l'apnix, pour qu'ils décident des votes. Et quand on ramène la démocratie, si je vous ai bien compris, ça veut dire, dans nos démocraties modernes, le citoyen ne vote plus directement, mais il vote pour ses représentants. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, puisque vous le dites, ça existe avec le référendum, une démocratie de type athénien dans nos États aujourd'hui? Vous citiez le référendum, c'est le cas d'une démocratie directe. Est-ce que ce serait possible, Claude Mosset?
Eh bien, c'est un sujet qui a été débattu et débattu, qui est débattu encore même aujourd'hui aux États-Unis, en particulier par des historiens de la Grèce antique, justement, qui ont posé la question de savoir s'il ne serait pas possible de trouver des formes de démocratie directe, non pas au niveau national, bien entendu, mais au niveau local, par exemple, au sein même des entreprises, etc., c'est-à-dire de prévoir des formes de démocratie directe en s'inspirant du modèle athénien, c'est assez amusant de penser que c'est aux États-Unis même qu'on est en train de poser ce genre de problème, justement, en s'inspirant du modèle athénien, mais bien sûr, seulement partiellement, c'est-à-dire totalement impossible dans un État moderne de rassembler tous les citoyens. Mais du moins, peut-on envisager peut-être des formes de débat, car l'importance, si vous voulez, de la démocratie, plus que le fait de voter, c'était le fait de débattre avant de voter. Et précisément, quand on est citoyen dans une démocratie représentative, on désigne des députés, mais on ne participe pas au débat.
Est-ce qu'elle est aussi bien établie qu'on le dit, puisque bon, maintenant c'est une chose acquise pour beaucoup de pays, pas tous, on le sait bien.
Pas encore, malheureusement, mais on a vu quand même depuis quelque temps, justement, c'est pas pour rien que la réunion de demain au Sénat s'appellera le printemps de la démocratie, c'est qu'on a vu un certain nombre de pays, justement, se rallier au principe de la démocratie et précisément au principe du débat, de ce débat ouvert qui est l'un des signes essentiels de la démocratie.
Là, ces débats dont vous faites, auxquels vous faites référence, Claude Mosset, effectivement, c'est demain au Sénat, dans le cadre des rendez-vous citoyens, une journée de débat et de table ronde sur le thème de la démocratie, journée à laquelle vous participerez vous-même, Claude Mosset, avec beaucoup d'autres personnalités. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire grecque, dont Les Grecs inventent la politique, qui vient d'être publié aux éditions Complexes, et Périclès, l'inventeur de la démocratie, publié chez Payot. À lire également Une histoire du monde antique, que vous avez préfacée, qui vient d'être publiée chez Larousse, ainsi que L'élan démocratique dans la Grèce ancienne, de Jacqueline de Romilly, publié aux éditions de Fallois. Vous avez pu entendre des extraits des péplums suivants, Alexandre le Grand de Robert Rossen, disponible en DVD chez MGM, et La bataille de Marathon de Jacques Tourneur. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Le bilan d'histoire. Merci à Stéphane Corridan, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, et Anne Kobilac, notre réalisatrice. Bonne semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un des auteurs les plus subversifs de la littérature contemporaine, Dominique Deroux. Mardi, la rébellion zapatiste au Mexique. Mercredi, avec Philippe Labro, le plus grand gangster des États-Unis, Al Capone. Jeudi, le dernier chef du gouvernement français en 1940, avant Pétain, Paul Reynaud. Et enfin, vendredi, un roi qui, avant la Révolution française, fut aussi un réformateur, on l'oublie parfois, Louis XVI. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Éric Oswald.
Merci Patrice Gélinet et à lundi.
Amis de la musique. Music. I need a pound of fat back drum.